Bonjour, bon week-end et bienvenue à Panorama Économique. Épargné en République démocratique du Congo pour un avenir meilleur. Oui, c'est possible. C'est le thème choisi par la RDC qui a célébré pour la toute première fois cette année la Journée internationale de l'épargne. Occasion pour le gouverneur de la Banque centrale du Congo d'encourager les Congolais à la culture de l'épargne malgré la modicité de leurs revenus. La présidence de la République démocratique du Congo au processus de Kimberley se termine sur bonne note. La réunion de Kinshasa cette semaine a réussi à lever l'embargo sur les diamants de Marangwe au Zimbabwe, un dossier qui a longtemps séparé les participants et les États-Unis d'Amérique ont été désignés comme président du processus pour l'exercice 2012. Le ministre du Plan a présenté cette semaine le DSRP de deuxième génération. Selon ce document, la pauvreté sera réduite de 60% à l'horizon 2015 en RDC. Une ambition pour hisser le Congo au rang de pays intermédiaire et émergent. Dans le studio de Panorama Économique, nous recevons Jérôme Sekana pour des analyses et commentaires. Jérôme Sekana est le patron de Galaxy Media, c'est un organe de presse de Kinshasa, et il est journaliste comme nous devant le micro. Daniel Tambizoni et Jocelyne Moussaou pour vous présenter Panorama Économique.
Panorama Économique de Dessier.
Le 31 octobre, c'était lundi, la Journée internationale de l'épargne, la République démocratique du Congo l'a célébrée pour la toute première fois.
C'est le thème choisi, épargner en RDC pour mon avenir. Oui, c'est possible. Les écoles primaires et secondaires ont été le public cible des différentes activités relatives à cette journée. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, qui a présidé la cérémonie commémorative, appelle la population à épargner malgré son pauvre revenu. Jean-Claude Massango Molongo.
Épargner est une affaire de volonté, de détermination et d'organisation. L'épargne offre des avantages indiscutables au plan micro et macroéconomique. L'épargne permet d'assurer des revenus qui peuvent devenir importants dans le futur et qui permettent d'envisager l'avenir avec confiance. L'épargne permet de se prémunir contre les risques éventuels et les aléas de la vie, tels que la scolarisation des enfants, les soins médicaux et le règlement des coûts afférents à des événements indispensables au plan social. Au niveau national, l'épargne constitue des ressources locales indispensables pour le développement des activités productives, à même d'améliorer la croissance économique, induisant ainsi le bien-être social et la réduction de la pauvreté. Bien que cette campagne vise principalement les enfants des écoles primaires, secondaires et professionnelles, il n'en demeure pas moins que l'épargne concerne toutes les couches de la population.
Monsieur Jérôme Sekana est avec nous dans ce studio pour des analyses et commentaires. Jérôme n'a plus à présenter. Jérôme, bonjour et bienvenue.
Bonjour Daniel, bonjour Jocelyne.
Bonjour. Épargner pour mon avenir, c'est possible, le gouverneur de la Banque centrale a parlé. J'étais devant un auditoire à 80% constitué des élèves des primaires et des secondaires. Pourquoi cette stratégie, ça vous dit quelque chose?
Le gouverneur de la Banque centrale s'est exprimé devant l'avenir de la République démocratique du Congo. Et c'est une très bonne chose. Nous venons d'où? Il y a 10 ans, on avait moins de 10 banques en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine. Donc, le taux de bancarisation s'est vraiment amélioré dans un pays où nous avons plus de 70 millions d'habitants. Avoir quand même une vingtaine, ce n'est pas encore ça. Nous pouvons peut-être prétendre en avoir 50, même 100, pour que tout le monde soit servi. Mais déjà, c'est un pas en avant, dans la mesure où quelques-unes de ces banques ont des succursales, presque dans toutes les provinces, même si il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Pourquoi s'adresser devant la jeunesse? Eh bien, parce que nous n'avons pas la culture d'épargne. Ceux qui épargnent, ce sont parfois des fonctionnaires internationaux, comme vous. Ceux qui épargnent, ce sont des gens qui ont des opérateurs économiques. mais la population, les enfants dans les foyers, c'est difficile dans la mesure où le pouvoir d'achat est très très faible. On ne peut pas arriver à épargner lorsque déjà on n'arrive pas à réunir ce qui peut vous permettre de manger, ne serait-ce qu'en un jour. Et c'est ce qui explique les taux très élevés de la pauvreté. Parce que pour manger dans un pays comme la République démocratique du Congo, le minimum pour une personne, c'est 5 dollars. Combien de gens touchent 5 dollars par jour pour arriver à se nourrir correctement? S'adresser à la jeunesse, pourquoi? Parce que nous avons connu aussi des phénomènes ici. D'abord, il y a les pillages, il y a des courageux, les gens, mais également, vous avez des phénomènes comme Bido, il y a eu beaucoup d'escroqueries. Il faut peut-être sensibiliser, comme ils l'ont fait, amener les jeunes gens à comprendre que lorsque même on a un petit revenu, il faut qu'il ait déjà cette culture-là. Il sait très bien que même si le transport que le papa m'a donné, si je n'arrive pas à consommer les tout, je peux garder chaque fois, parce que le gouverneur a ouvert même des comptes pour les enfants. Je peux épargner, parce que 500 francs chaque jour, ou peut-être 3 jours, mais en fin de compte, l'enfant est capable de s'acheter quelque chose. C'est ça l'épargne. L'épargne, c'est important au niveau de l'individu, au niveau de la collectivité, même au niveau du pays. Au jour d'aujourd'hui, si la Chine se targue même de voler au secours de l'Union européenne, c'est parce que la Chine a su épargner après avoir mis de côté un matelas de 3300 milliards de dollars américains, et c'est ce qui constitue le fonds souverain de la Chine. D'ailleurs, elle cherche où investir grâce à une croissance économique à deux chiffres. Et c'est ce que nous devons également faire. Les grands problèmes que nous avons dans notre pays, c'est la gouvernance. Et quand je parle de la gouvernance, je vois la rationalité des dépenses. Nous avions un budget de 300 millions de dollars ici, il y a quelques années. Aujourd'hui, nous avons un budget qui approche les 7 milliards. Donc, il y a quand même quelque chose, un pas en avant dans la mobilisation des recettes. Le problème, c'est la qualité des dépenses. L'argent que nous avons, le peu que nous avons, nous gérer vraiment comme un bon père de famille et non faire des dépenses improvisées, extra-budgétaires qui n'étaient pas prévues, ou encore faire une place de la population, des politiciens par exemple, s'approprier de l'argent au détriment du souverain primaire. Je donne un exemple. Notre budget, vous savez, sur les théoriquement 7 milliards-là, le fonctionnement des institutions bouffe plus ou moins 60%. C'est anormal. Et en plus, vous avez vu les députés et les sénateurs, pour leur indemnité de sortie, ils avaient droit à 21 milliards.
500 ?
Non, 21 milliards de francs congolais. Mais non, parce qu'ils ont voulu terminer les législatures chacun avec deux nouveaux types. Eh bien, ils ont demandé, ils sont en train de sauver le gouvernement et le gouvernement est en train de payer. Au lieu de payer 21 milliards, le gouvernement doit débourser 31 milliards. Les 10 milliards autres qu'on doit puiser dans le trésor public pour leur donner ça, alors qu'ils ne payent même pas les impôts, mais ça va déséquilibrer le reste.
Et c'est le moment de prendre ce deuxième dossier de la semaine. Les pays membres du processus de Kimberley, réunis à Kinshasa cette semaine, ont décidé de la levée de l'embargo sur les diamants du Zimbabwe.
C'est une des grandes résolutions de cette session clôturée jeudi à Kinshasa. Ce dossier avait divisé pendant longtemps les membres du processus de Kimberley. D'un côté, les Africains soutenant que les diamants de Marangwe soient exportés, et de l'autre, les autres nations non africaines qui s'y opposaient à cause des conflits dans cette zone du Zimbabwe. Suivons ce reportage que Daniel vous avait réalisé pendant la semaine.
Après le manque de consensus des participants à la réunion de Namibie en 2009 et Israël en 2010, Kinshasa 2011 aura résolu le problème et le Zimbabwe peut enfin reprendre les exportations de ses diamants produits à Marangwe, une zone à conflit. Les délégués de 76 pays réunis à la plénière de la 9e session du processus de Kimberley en ont décidé ainsi. Autre décision importante, les participants ont désigné les États-Unis d'Amérique pour assumer la vice-présidence du mandat de la RDC qui se termine au 31 décembre prochain et l'exercice 2012 sera présidé par les mêmes États-Unis d'Amérique, assisté par l'Afrique du Sud comme vice-présidente. Deux demandes d'adhésion ont été examinées et agréées. Aussi, la Namibie et le Ghana deviennent membres du processus de Kimberley. Un grand absent à cette session, la société civile qui a suspendu sa participation. Elle conditionne son retour à la prise en charge de ces six revendications parmi les lequel le respect des droits de l'homme dans les milieux extractifs. Le président sortant, Makiyamba, a rassuré qu'une commission est mise sur pied pour examiner ses revendications et le représentant des États-Unis a lui déclaré que son pays fera de son mieux pour que la société civile revienne aux discussions. En matière de lutte contre la fraude et les contrôles internes dans le circuit de commercialisation des diamants, une commission de lutte patronnée par le CEC est créée pour la RDC, a annoncé le président du processus de Kimberley, un projet pilote pour recenser tous les trésors artisanaux de la RDC est aussi mis en route et a déjà enregistré 64 000 trésors artisanaux. 64 000 trésors artisanaux recensés, cela dans le cadre de la lutte contre la fraude dans le secteur du diamant en RDC. La RDC, Jérôme, a fini sa présidence sur quelques bonnes notes, puisque la décision de lever l'embargo sur les diamants du Zimbabwe a été applaudie par tous les participants. Il y en a même qui se sont mis debout pour esquisser quelques pas de danse. C'était quand même quelque chose de bon.
Oui, c'est quelque chose de bon, d'autant plus que cette mesure-là avait une forte dose de politique. Vous savez, la communauté internationale, parfois, ne soutient pas ce que les nationalistes donnent comme point de vue. Bon, c'est une bonne chose et les gens ont dansé parce qu'au moins ils se sont sentis un peu libérés de ces pesanteurs. Mais il y a un problème. Tout à l'heure, là, vous parliez de 13h, 64 000 13h déjà recensés. Moi, j'ai travaillé pendant 11 ans au ministère. De l'Union, je sais de quoi je parle. Il y a un problème très sérieux. Il ne suffit pas de recenser les trésors et les diamantaires au niveau des puits, mais il faut de faire une certaine traçabilité à l'intérieur. La traçabilité ne doit pas simplement se faire au niveau international. Et encore qu'il y a des failles. Au jour d'aujourd'hui, il y a des diamants de la République démocratique du Congo qui est vendu au Congo Brazzaville et vendu comme produit de la République du Congo voisine d'en face, alors qu'on a extrait ça de la RDC. Il en est de même en ce qui concerne l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie. Donc il y a encore un problème, quand bien même le processus de Kimberley est là, il y a du travail à faire. On ne doit pas se contenter de dire que voilà, le processus de Kimberley est là, ça ne se plus. Non, nous devons combattre la fraude sous toutes ses formes.
Dans le dossier de la semaine, le ministre du Plan a présenté mercredi à la presse chinoise internationale le document stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté de deuxième génération, le DFRPD.
Pour Olivier Kandikatou, ce document adopté par le gouvernement le 30 octobre dernier préconise de faire de la RDC une société d'espoir capable de se hisser au rang des pays à revenus intermédiaires et émergents. Madame Mponaïdema était là pour Ecobonus. Pour arriver à cette vision, le DFRPD contient des objectifs dans le secteur de la pauvreté, de l'emploi, de la croissance et de la stabilisation, de l'éducation, du genre, de la santé, pour ne citer que ces secteurs. Pour illustration, le DFRPD vise de ramener d'ici 2015 l'incidence de la pauvreté à 60% et de créer au moins 1 million d'emplois décents par an à cet horizon, assurer un taux de croissance de 7,2% par an sur la période et augmenter le niveau d'investissement à 19%, stabiliser le taux d'inflation à 9%. Ce document, dont la réalisation nécessite 26 milliards de dollars, s'appuie sur 4 piliers, dont le renforcement de la gouvernance et de la paix, la diversification de l'économie, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et la protection de l'environnement. Selon Olivier Kandikatou, la réalisation du DFRP1 a permis des avancées dans le secteur de l'éducation, l'accès à l'eau, et des avancées certes, mais des avancées bien faibles, a-t-il reconnu. Qu'est-ce que le DFRP2 prévoit pour améliorer davantage le climat des affaires et booster la croissance et l'emploi? Olivier Kandikatou.
Nous avons un programme de renforcement de capacité des administrations, parce que réformer c'est bien, mais au-delà de la réforme, il faut que l'administration soit outillée pour mettre en œuvre ces réformes. Nous maintenons le cap, la TVA, la réforme de la fiscalité sera effective dans quelques semaines. L'uniformisation des taxes, les lois commencent à être adoptées. Nous allons casser le monopole des assurances. La loi sur le partenariat public-privé, le cadre réglementaire va être mis en place.
Ce document est un cadre de référence pour les programmes de développement économique et social des gouvernements centraux, provinciaux et les partenaires au développement.
Réduire la pauvreté de 60%, créer au moins 1 million d'emplois, Nous avons mis cette information sur le site radio-cap.net et les réactions de quelques internautes n'allaient pas dans le sens à encourager le discours du ministre Olivier Kamitatou, ministre du Plan. Et vous, Jérôme?
Sinon, je dois quand même reconnaître que le gouvernement a fait du boulot. Vous savez, le DCRP1, le succès de son exécution nous a permis ces lignes de conditionnalité pour atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPPE. Vous ne pouvez jamais atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPPE si vous n'exécutez pas pendant plus ou moins une année avec succès le DSRP. Le problème que nous avons, c'est peut-être un problème de chiffres, on ne doit pas tricher. Moi, si j'étais là, je pouvais dire droit aux yeux du ministre que, en tout cas, 60% c'est faux et après faux.
Comme les internautes de Radio Papillon.
Dans la mesure où le gouvernement n'arrive même pas à se conformer aux objectifs du millénaire. Que disent les objectifs du millénaire? Vous devez consacrer plus ou moins 30% de votre budget à l'éducation.
C'est pas encore le cas.
Ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. 20% à la santé. 10% à l'agriculture. Ce n'est pas encore le cas en République démocratique du Congo. C'est ce qui fait que nous ne serons pas au rendez-vous de 2015. C'est utopique tout ça, dans la mesure où nous avons un problème de gouvernance, un problème très sérieux de gestion des ressources publiques, et où vous avez certaines, les politiciens tirent la couverture de leur côté et laissent les miettes au reste de la population. C'est ça qui concerne. Alors, je voudrais quand même dire un mot en ce qui concerne toutes les projections. Vous savez, le DCRP de... C'est un document qui a été élaboré par tout le monde. Ça connaît la participation de tout le monde, mais financé par des bailleurs de fonds comme la Banque mondiale et les autres, là-bas, et ainsi de suite. Et là-dedans, il y a la part du gouvernement. Sur les 26 milliards qu'on doit mobiliser, eh bien, je pense que le gouvernement doit avoir un gros morceau. Le problème, c'est la mobilisation des recettes. Il a dit qu'il y a des réformes que nous devons mettre sur pied. On va mettre la TVA, bien sûr, j'applaudis, ça peut apporter beaucoup d'argent. Mais nous avons un problème du secteur informel. 95% de l'économie congolaise fonctionne dans l'informel. La meilleure des réformes qu'on devrait faire, c'est d'abord permettre à ce que chacun puisse avoir un identifiant fiscal unique. C'est avec le numéro impôt, on peut arriver à élargir l'assiette fiscale, on peut arriver à absorber l'informel et effectivement donner plus de moyens. Ce projet-là, cette réforme-là bat de l'aile. Le gouvernement a laissé cette réforme à la charge de la DGI seule. Le gouvernement devrait donner de l'argent pour financer ça. L'argent appelle l'argent. Bien sûr que la TVA va donner de l'argent. Mais une TVA, sans que vous n'ayez un répertoire dynamique pour la DGI, qui fait quoi? Parce qu'avec l'identification fiscale unique, on sait qui fait quoi. Nous sommes près de 70 millions de Congolais. Vous savez combien ces personnes physiques et morales sont répertoriées au niveau de des régies financières? Moins de 500 000. C'est là où il y a les problèmes.
Matière première dans Panorama économique, nous n'en avions pas parlé dans Éco d'économie, mais puisque nous avons face de nous Jérôme Tekana. Jérôme, vous revenez d'un forum économique à Addis Abeba, c'était pour parler de l'économie verte. Voulez-vous bien nous parler de quoi l'économie verte?
Eh bien, l'économie verte, c'est simple, c'est une économie qui ne pollue pas, qui crée la croissance verte, une économie qui crée l'emploi et une économie qui booste le développement. Et les Africains se sont réunis pour réfléchir parce qu'ils se disent l'Afrique a des potentialités qui peuvent lui permettre de faire cette économie verte. Notamment, il y a des piliers. Il y a d'abord les piliers énergétiques. Vous savez, les énergies fossiles polluent. Terriblement, il faut recourir maintenant à des énergies propres, notamment les centrales hydroélectriques comme Inga 3, Inga, les grands Inga, qui figurent sur le projet des Africains, qui nécessitent 20 milliards de dollars. Il faut qu'on arrive à mettre à la disposition des Africains de tous les 5 continents. Le continent africain est le seul où le taux de desserte en électricité est très faible. Et donc, moins de 30% sur les milliards d'Africains qu'on compte sur le continent noir, moins de 30% ont accès à l'énergie électrique.
C'est ce qui nous a fait perdre d'ailleurs des points donc, au rapport
Il faut nécessairement qu'on arrive à disponibiliser ces courants-là et développer. On a cité des exemples au Kenya, on a cité. Le soleil est là, disponible. Il faut qu'on arrive à développer des énergies renouvelables non polluantes. Ça, c'est le premier secteur. Le deuxième secteur, c'est l'agriculture. L'Afrique dépense chaque année 50 milliards de dollars pour importer les vivres. Alors que si elle peut dépenser 13 milliards de dollars, elle peut s'autosuffire alimentairement et exporter les surplus. Alors qu'on a des espaces verts à perte de vue, comme en République démocratique du Congo, nous avons 120 millions d'hectares d'espaces verts où on peut cultiver non exploités. Donc il y a une certaine paresse. Il faut que les Africains arrivent à s'autosuffire alimentairement parce que c'est ça la clé pour émerger et atteindre le rang des pays émergents. C'est ce que la Chine a fait. C'est ce que l'Inde a fait. Il faut d'abord que les gens mangent à leur faim pour qu'ils puissent travailler durement et contribuer à la croissance économique. Un autre élément, c'est l'autorité de l'État. On a constaté que le consensus de Washington a échoué, où on pense que pour développer les pays, c'est seulement les priver, ils doivent non. Ici, au niveau de l'Afrique, on dit, par exemple dans le secteur des ressources naturelles, notamment dans les mines, on a constaté que l'Afrique est considérée toujours comme un réservoir minier où on vient puiser, alors que la valeur ajoutée de ces produits miniers est de 160%. Et 40%, c'est l'ensemble des recettes et l'investissement qu'on fait pour exploiter ces minerais. Alors les Africains disent non. Comme l'intérêt se trouve dans la valeur ajoutée, il faut qu'on réfléchisse pour que les États puissent, comme au Chili, au jour d'aujourd'hui, nous avons nos minéraux, nous les donnons par des joint ventures avec les États-Unis, à des prix. Au Chili, ce n'est pas le cas. Les gros gisements sont confiés à l'État. L'Éthiopie a un taux de croissance économique de 10%. Et pourquoi ? Parce que l'autorité de l'État est là. Elle est forte. Et l'État est en train d'intervenir efficacement à des moyens. Dans notre pays, par exemple, on déprime l'État de ses moyens. Ils disent que non, il faut que l'État soit fort. L'autorité de l'État doit être réhabilitée. On a cité un autre exemple. Le pic de la croissance économique en Afrique, qui est le Ghana. Un pays post-conflit comme le nôtre. Mais au jour d'aujourd'hui, le Ghana connaît un taux de croissance économique de 12%. C'est dû à quoi ? À l'autorité de l'État. L'État doit s'assurer. L'État ne doit pas dépenser l'argent des contribuables comme il l'entend, comme il le veut. Non, il faut gérer judicieusement et investir dans des secteurs qui créent de la richesse, notamment dans l'agriculture. Parce que l'agriculture, lorsque vous investissez dans l'agriculture, vous résorbez l'emploi. Donc, il y a des gens qui trouvent facilement l'agriculture crée plus d'emplois, plus que d'autres secteurs. Voilà un peu ce qu'on a dit, et il y a des objectifs, bien sûr, ils attendent beaucoup de la République démocratique du Congo, où trouver de l'argent. Il y a les fonds verts que la Banque africaine de développement est en train de lancer, mais également les dividendes du puits carbone. On se contente des miettes qu'on nous apporte ici, ce n'est pas pour nos beaux yeux qu'on nous apporte 50 millions, 30 millions, et ils savent très bien que notre puits carbone séquestre des millions et des millions de gigatonnes de COD. Et cette séquestration-là fait que nous puissions avoir de l'air, nous puissions respirer, que nous puissions avoir de l'oxygène, parce que par le processus de la photosynthèse.
Panorama économique, c'est un panorama. Le président de la province du Maniema qualifie de tracasserie financière les multiples taxes et redevances leur imposées par le gouvernement provincial. C'est ainsi que, pour apporter la bonne information, les trois commissions des régies financières de la province se sont retrouvées dans un atelier de 3 jours, clôturé jeudi, et parrainé par l'Union des paysans pour le progrès de Pandi, Kaïlo, Kasongo et Kabambaré. Il était donc question d'inventorier tous les textes légaux relatifs à la perception des taxes et en déterminer la légalité. Mathieu Ilonga-Chamboui pour le reportage.
Maniema est une province à vocation agricole avec plus de 400 000 ménages agricoles, ses forêts et savanes très fertiles, une hydrographie abondante et plusieurs espèces de terres arables, pour ne pas oublier sa population principalement composée d'agriculteurs, éleveurs, pisciculteurs, pêcheurs et chasseurs du gibier. Voilà ce qui motive l'organisation de cet atelier qui devra débuter à la production d'un recueil des taxes et autres redevances que la province impose aux paysans. C'est une initiative de l'Union des paysans pour le progrès des Pangitaï, le Kusongo et Kabambare dans la province du Maniema, Ipeta en sigle. Le but poursuivi est celui d'apporter des formations aux paysans et aux autres usagers de services publics sur les taxes prélevées en zone rurale et d'en savoir plus sur les indications juridiques en matière de taxation. M. Amoura Niarona est le conseiller technique principal de l'Ipeta.
Les producteurs agricoles sont malmenés au quotidien, faute de connaissances des taxes et de la légalité des taxes qu'ils doivent payer. Il y a des taxes des entreprises qui sont décentralisées, des taxes de la province et des taxes du trésor. Et il y a un désordre, une confusion indescriptible dans la perception des taxes sur les produits agricoles.
Sont invités à participer à ces travaux d'élaboration des répertoires des taxes et redevances officielles reconnues, des services générateurs de recettes et régies financières, comme la division des finances, des billets, la direction des recettes publiques Maniema directement en sigle, NC, ANEOR, DGM et la société civile, la FEC et enfin Akizalima Damo. Amourani Aruna, conseiller technique.
Ce travail-là va nous permettre de produire un recueil de taxes. Et ce recueil sera vulgarisé et sera rendu accessible à toutes les parties prenantes de manière à créer la visibilité de la transparence dans la perception et dans les taux officiels des différentes taxes imposées sur le pays.
Au bout de 5 jours, Dipeka rassure qu'il y aurait un aboutissement qui va permettre à une clarté sur les contributions dues à la province, au gouvernement central et aux entités territoriales décentralisées. Kindou, Mathieu Ilonga Chambou, mon étudiant, Éco de Commune.
Bon week-end à toi, Mathieu. Merci. C'est le dernier tournant du panorama économique. Il faut connaître ce qu'on doit effectivement payer à l'État, Jérôme.
Je voudrais d'abord féliciter mes frères et sœurs du Maniema, vous savez, qui viennent de là, et je voudrais encourager les autres à suivre cet exemple. Eh bien, l'initiative est bonne, c'est ce qu'on appelle le contrôle citoyen, sauf qu'ils doivent attendre un peu, parce qu'il y a un problème au niveau national. Au niveau national, pourquoi? Parce qu'il n'existe pas d'impôt ni de taxes en dehors de la loi. Et qui dit la loi, c'est-à-dire c'est le président de la République qui doit promulguer. Nous avons une nomenclature des recettes de l'État qui existe, mais qui pose problème et qu'il faut actualiser. Et vous vous souvenez, lors de la rencontre de la conférence des gouverneurs, eh bien, ils nous ont tablé sur la question, mais la question est restée inachevée. Les gouverneurs ont demandé à ce qu'il y ait des commissions qui siègent autour de la question avec certains experts des régies financières. C'est lorsqu'ils vont se retrouver pour statuer sur ça que le président de la République va promulguer une loi qui va répondre de manière exhaustive les taxes qu'on doit payer. Il est évident que certaines taxes, on les paye pour rien et que la population doit résister et peut même refuser de payer une taxe qui n'a pas une base juridique. J'applaudis, j'encourage les frères et sœurs de Kindou. Il ne leur appartient pas à eux de pouvoir établir un recueil. C'est le gouverneur qui doit proposer au niveau de la conférence des gouverneurs que chez moi, je peux imposer ça, et que ça arrive au niveau des conférences des gouverneurs, le gouvernement envoie ça au Parlement, le Parlement approuve et envoie au président de la République qui doit promulguer une loi. Et toutes les taxes, tout impôt qu'on peut demander à la population qui ne figure pas dans cette loi-là ne peut pas être fait.
Le Premier ministre Adolphe Mouzito, en faisant le bilan de ces 3 ans à la tête du gouvernement congolais, estime que son bilan a été positif. Et vous, quels commentaires vous en faites?
Le bilan est mitigé. Mitigé dans la mesure où, sur le plan économique, nous avons atteint le plafonnement de l'initiative PPE. Nous applaudissons. Vous voyez également la stabilité du cadre macroéconomique. Il y a la monnaie, notre devise nationale s'est stabilisée. Il y a également le financement des élections. Ça, franchement, je suis très content, j'applaudis de demain. Mais le social, le social est par terre. Et puis la gouvernance, même les institutions de la, des institutions de plateau notre réponse, il y a des choses qui se font et qui n'honorent pas notre crédibilité. Vous avez le pavillon présidentiel à l'aéroport international Bengui, 32 millions, tout le monde se moque de nous. Une coquille vide comme celle-là qui commence même à souhaiter à 30 millions, mais il faut être fou pour accepter des choses comme ça. Vous avez les boulevards du 30 juin, de la gare centrale jusqu'à ce climat, 7 km, mon ami, pour 20 millions de dollars. Alors qu'on a donné toute une carrière de moellons, de graviers aux Chinois. Et c'est qu'une route, le boulevard existait. On ne peut pas dépenser 80 millions là-bas. Vous avez plus de 100 millions pour l'hôpital du cinquantenaire. Alors que la fête est plus de 100 millions, 120 millions, vous pouvez réhabiliter tous les hôpitaux de la
SAS. Ce n'est pas un programme géré par le
ministre de le gouvernement. C'est pour vous dire que nous applaudissons. Il y a des succès dans certaines rubriques, notamment économiques et des finances, mais le côté social, il a un service.
Merci beaucoup, Jérôme. Ce sont les analyses et commentaires de Jérôme Sekana qui analysait l'actualité économique sur Radio Okapi. Merci énormément à vous, chers auditeurs, de nous avoir accordé votre temps. Merci à vous, Jérôme, et nous pensons que ce ne sera pas la dernière fois de venir analyser l'actualité avec nous. Merci, Jocelyne.
Merci.
Et aussi, merci à vous, Dieudonné Massunda, pour la réalisation technique de cette émission. Très bon week-end à vous et rendez-vous avec l'actualité économique sur Radio Okapi, lundi, 18h17 heure de Kinshasa.